Pourquoi Afrique ? Le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous sommes le jeudi 21 mai 2020. Bienvenue à l'écoute. Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui à la une de l'actualité ce soir. Au Burundi, la commission électorale appelle à la patience pour les résultats. Washington dit suivre la situation de près. Municipal au Bénin, écrasante majorité pour les deux partis proches du chef de l'État. Dans la partie magazine, gros plan sur le franc CFA après l'approbation par Paris d'un projet de loi qui donne le feu vert à la transformation de cette monnaie.
Ça vient confirmer, disons, la décision prise au mois de décembre dernier, qui voulait que, en tout cas, à partir du mois de juillet 2020, que, effectivement, le franc CFA puisse disparaître et remplacer par l'écho.
Le passage du cyclone Amphan laisse des scènes de dévastation en Inde et au Bangladesh, avec un bilan meurtrier qui continue de s'alourdir. La planète a franchi le cap des 5 millions de cas déclarés de Covid-19. Le gouvernement chinois réagit aux propos du président Donald Trump, qui l'accuse d'être responsable d'une tuerie de masse mondiale. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économie et sport à venir dans environ 10 minutes. Au Burundi, le président de la commission électorale du pays appelle la population aujourd'hui à la patience pour la publication des résultats des élections générales d'hier. Pierre Claver, quasi-lycée, a indiqué que les résultats des 14 655 bureaux répartis dans 3 807 centres de vote sont acheminés vers les centres de la commission dans les 119 communes du pays. La commission électorale entend publier simultanément les résultats des élections présidentielles et législatives et communales. Leur proclamation devrait avoir lieu lundi ou mardi prochain, d'après Pierre Claver à quasi-lycée. Washington dit suivre la situation de près. J'exhorte toutes les parties à s'abstenir de provocations, a déclaré hier le patron de la diplomatie américaine, Mike Pompeo. Pour sa part, Tibor Nage, secrétaire d'État américain adjoint aux affaires africaines, dit saluer le peuple burundais pour son attachement pacifique au processus démocratique, tel que l'illustre le taux de participation exceptionnelle aux élections. Nous appelons toutes les parties à la retenue et à s'abstenir de toute forme de provocation dans les jours à venir, écrit-il sur Twitter. En République démocratique du Congo, un militant du mouvement citoyen Lutte pour le changement a été tué ce jeudi par balle lors de la répression d'une manifestation contre l'insécurité dans la ville de Beni, dans l'est du pays. Marcus Freddy Kambale, 22 ans, a été atteint par une balle tirée par un agent de la police dans un stade de la ville où une vingtaine de militants de Lucha s'étaient rassemblés pour une manifestation pacifique, d'après le mouvement. Le ministre congolais des droits humains, André Lité, affirme qu'une enquête est ouverte par l'auditorat militaire sur cette affaire afin de savoir ce qui s'est passé exactement. Toujours en RDC au sujet des tueries en Ituri, l'Union européenne a appelé ce jeudi Kinshasa et la mission de l'ONU dans le pays à mettre fin aux violences attribuées au groupe armé ethnico-mystique Codeco. Des centaines de personnes ont été tuées depuis fin 2017 en Ituri. Au Bénin, les résultats des élections municipales de dimanche sont connus. Les deux partis proches du président Patrice Talon ont remporté sans surprise une écrasante majorité. Claire Morin-Gibourg.
Sur les 1815 conseillers communaux dans les 77 communes du Bénin, l'Union progressiste et le Bloc républicain ont remporté 1555 sièges, soit plus de 80%. Le taux de participation se situe autour des 50% selon la Sénat, malgré les appels au boycott de l'opposition et le coronavirus. L'ancien chef de l'État, Boni Yayi, a accusé M. Talon de préparer un parti unique à sa solde. Son parti, le FCBE, a remporté 260 sièges. Les deux autres partis qui ont pris part au scrutin n'ont pas obtenu de sièges, faute d'avoir atteint la barre des 10% des suffrages exigés par le code électoral. De nombreux partis exclus du scrutin en raison des conditions requises par le nouveau code électoral avaient appelé les électeurs à ne courir aucun risque de contamination au Covid-19 en sortant ce jour de parodie électorale. Les législatives de 2019, auxquelles certains partis d'opposition n'ont pas pu participer, ont été suivies par une grave crise politique dans le pays.
le bracelet électronique à la place de la détention. Le gouvernement sénégalais a approuvé le projet qui a pour but de désengorger les prisons. Le point avec Abdourahmane Zia.
Hier, le Conseil des ministres a validé une modification des textes pour permettre le placement sous surveillance électronique comme mode d'aménagement des peines et introduire l'assignation à résidence avec surveillance électronique comme alternative à la détention provisoire, a indiqué un communiqué du gouvernement. Cette modification doit encore être approuvée par le Parlement, a dit un responsable du ministère de la Justice. Il a précisé que le feu vert donné à la surveillance électronique ne visait pas spécifiquement à désengorger les prisons en pleine pandémie de coronavirus, puisque le texte était dans le circuit bien avant la pandémie. En 2018 déjà, le Sénégal évoquait l'introduction du bracelet électronique dans des cas précis, notamment de détention provisoire. Le ministre de la Justice, Malick Sall, avait indiqué que ses services travaillaient sur l'introduction du bracelet pour décongestionner les prisons. Les défenseurs des droits humains dénoncent régulièrement les conditions de détention, la surpopulation carcérale et la durée des détentions provisoires au Sénégal.
Au Nigeria, le principal syndicat de médecins à Lagos, la capitale économique du pays, a suspendu une grève annoncée ce jeudi pour protester contre ce qu'il qualifie d'abus des forces de l'ordre qui les empêchent de se déplacer pendant le couvre-feu. Les agents de santé, y compris les médecins, sont exemptés du couvre-feu nocturne de 20h à 6h du matin pour lutter contre la propagation du coronavirus. L'association médicale nigériane a accusé la police de Lagos de harceler et d'avoir arrêté certains de ses membres. En Tanzanie, le président John Magufuli annonce ce jeudi la réouverture des universités et le retour des compétitions sportives dans son pays à partir du 1er juin, après avoir assuré que l'épidémie était en net recul aux grandes dames de l'opposition. Au Botswana, les centres commerciaux de la capitale Gaborone ont retrouvé leurs clients et ses grandes artères. Leurs embouteillages ce jeudi, au premier jour de l'après-confinement anti-coronavirus, imposé au pays pendant 48 jours. À ce jour, le pays producteur de diamants a officiellement recensé 29 cas d'infection, dont un mortel.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le cyclone Amphan a fait au moins 88 morts en Inde et au Bangladesh, d'après un bilan provisoire. Des centaines de villages ont été inondés et 10 millions de personnes sont sans électricité. Amphan a atteint hier le sud de Calcutta avec des vents de 165 km/h et des pluies diluviennes. Nathalie Barge.
En Inde, le cyclone a ravagé le littoral du Bengale occidental, qui compte le plus grand nombre de morts, balayant des milliers de maisons, déracinant des arbres et détruisant des cultures. Les 15 millions d'habitants de Calcutta se sont réveillés dans une ville inondée avec des voitures remplies d'eau et des poteaux électriques tombés par terre. La piste de l'aéroport est aussi submergée. Au Bangladesh, une brusque montée des eaux jusqu'à 3 mètres a inondé une partie du littoral, mais le raz-de-marée a été moins haut que les météorologues ne le redoutaient. Les deux pays avaient évacué plus de 3 millions de personnes, épargnant ainsi de nombreuses vies. En 1999, un cyclone avait entraîné la mort de 10 000 personnes dans l'état d'Odisha en Inde.
Pékin a réagi ce vendredi aux nouveaux propos du président américain Donald Trump, qui a accusé la Chine d'être responsable d'une tuerie de masse mondiale en raison de sa gestion de la pandémie de Covid-19. Ekia Badou.
C'est l'escalade verbale entre les deux puissances mondiales alors que le coronavirus a fait plus de 328 000 morts et les contaminations ont maintenant dépassé la barre de 5 millions de cas dans le monde. Dans un tweet hier matin, le locataire de la Maison Blanche dit que c'est l'incompétence de la Chine et rien d'autre qui a provoqué cette tuerie de masse mondiale. Le ministère chinois des Affaires étrangères est resté bien mesuré dans sa réponse. Dans la lutte contre l'épidémie, le gouvernement chinois a toujours été ouvert, transparent et responsable, a affirmé son porte-parole, Zhao Lijian. Donald Trump et son chef de la diplomatie, Mike Pompeo, ont affirmé que le coronavirus avait fuité d'un laboratoire chinois sans jamais apporter de preuves. les États-Unis et l'Australie ont appelé à une enquête internationale indépendante sur l'origine du virus.
Par ailleurs, la Chine a averti aujourd'hui qu'elle prendrait des mesures de rétorsion si le Congrès américain adopte des sanctions contre Pékin pour sa responsabilité supposée dans l'épidémie de Covid-19. Nous sommes fermement opposés à ces projets de loi et adopterons une réponse ferme s'ils sont adoptés, a déclaré le porte-parole du Parlement chinois Zhang Yesu. Michael Cohen, ex-avocat personnel du président Donald Trump, est sorti de prison ce jeudi. Il est rentré à son domicile new-yorkais où il devrait finir de purger sa peine pour cause de pandémie. Michael Cohen, 53 ans, était derrière les barreaux pour diverses fraudes et violations des lois électorales. Il était incarcéré depuis mai 2019 dans une prison fédérale de New York. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, un résumé des nouvelles économiques en Afrique, la Minute Éco avec Ekiabadou.
La Banque mondiale a approuvé un prêt d'environ 5 400 milliards de francs CFA à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour renforcer la lutte contre le Covid-19. Après le FMI ou encore l'Union européenne, c'est au tour de la Banque mondiale d'apporter son soutien au Gabon. Ces fonds permettront la fourniture de matériel, des ambulances, des équipements de protection individuelle et des kits de diagnostic, ainsi que la formation du personnel de santé et la mise en place de deux nouveaux centres de diagnostic du Covid-19. La Banque centrale sud-africaine a abaissé jeudi son principal taux d'intérêt, annonçant que l'économie va contracter de 7% en 2020. C'est la quatrième fois que la Banque sud-africaine assouplit ses taux cette année. Après avoir touché son plus haut niveau depuis 7 ans lundi, l'or est toujours dans une tendance à la hausse favorisée par les taux bas et l'endettement colossal des États. L'once d'or s'est même approché des 1 800 $ avant de se replier à 1 700 $ après l'annonce d'essais prometteurs du labo Moderna sur un vaccin contre la maladie Covid-19. Pour de nombreux experts, le métal précieux est plus que jamais une valeur refuge en ces temps de pandémie.
Et maintenant, un tour d'horizon de l'actualité sportive avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le président du Comité international olympique a admis que les Jeux olympiques de Tokyo, repoussés d'un an face à l'épidémie de Covid-19, seront annulés s'ils ne se tiennent pas en 2021. On ne peut pas éternellement employer 3 000 ou 5 000 personnes au sein du comité d'organisation, a poursuivi Thomas Barr, tout en réitérant l'engagement clair à ce sujet que les Jeux se tiennent en juillet 2021. Thomas Barr a admis qu'il faut être prêt à différents scénarios, des mesures de quarantaine pour les athlètes, pour d'autres participants ne sont pas à exclure. D'après le patron du CIO, initialement prévu pour cet été, les Jeux de Tokyo sont désormais reprogrammés du 23 juillet au 8 août 2021. En Allemagne, après les footballeurs autour des footballeuses, le championnat féminin va reprendre à huis clos le 29 mai. La Bundesliga masculine a déjà repris samedi dernier, sans public et avec des conditions sanitaires strictes pour éviter la propagation du coronavirus. Les clubs de Bundesliga féminine ont voté à une large majorité pour la poursuite de la saison. Lors d'une réunion extraordinaire des dirigeants le 30 avril, 11 des 12 clubs voulaient continuer à jouer. Seul le FC Cologne s'est abstenu. La saison doit reprendre le 29 mai avec un premier match opposant le leader Wolfsburg à Cologne. Ici aux États-Unis, le site de Disney World à Orlando a la préférence de la NBA pour y reprendre sa saison. Selon The Athletic, pour la NBA Disney World, ses complexes, hôtels et services nécessaires a toujours été la plus attrayante de toutes les possibilités. La chaîne de télévision ESPN a rapporté pour sa part que les matchs redémarreraient peu avant la fin juillet. Jusqu'à présent, la NBA songe à baser les équipes et faire jouer ses matchs dans une ou deux bulles en quarantaine. Las Vegas et Orlando tiennent la corde. Ces derniers jours, Houston apparaît comme un autre site potentiel. L'instance n'a toujours pas décidé d'une reprise de sa saison. Son commissaire Adam Silver a déclaré le 12 mai qu'il ferait une annonce d'ici 2 à 4 semaines. Toujours ici aux États-Unis, les équipes de la Ligue professionnelle de football américain risquent de perdre 5,5 milliards de dollars en revenus de stade si la saison 2020 devait se jouer sans spectateurs. Selon une estimation de Forbes, le magazine estime que la perte de revenus proviendrait de la billetterie, du stationnement, des sponsors, de la nourriture des boissons et des ventes de souvenirs, la Ligue a annoncé son calendrier pour la saison 2020 qui débutera le 10 septembre par la confrontation entre les Kansas City Chiefs, tenants du Super Bowl, et les Houston Texans.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci pour votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous. Il est l'heure maintenant de vous proposer la Tranche Magazine. C'est un sujet qui polarise l'attention. Hier, la France a entériné ce qu'elle appelle la fin du franc CFA, qui devrait dorénavant s'appeler l'écho. Pour des observateurs, il s'agit de la mise en œuvre concrète de l'accord du 21 décembre dernier, annoncé par le président ivoirien Alassane Ouattara, en présence de son homologue français Emmanuel Macron. Cette monnaie est souvent dénoncée par ses opposants comme colonialiste, mais le franc CFA ne disparaît pas complètement. Les six pays d'Afrique centrale, qui forment une zone monétaire distincte, continueront à l'utiliser. Pour comprendre la portée du projet de loi adopté hier à Paris, Bagassi Koura a joint à Dakar le professeur Malik Sané de l'université Cheikh Anta Diop.
Ça vient confirmer, disons, la décision prise au mois de décembre dernier, qui voulait que, en tout cas, à partir du mois de juillet 2020, que effectivement le franc CFA puisse disparaître et remplacer par l'écho. Donc pour moi, c'est la confirmation, en tout cas, d'une décision prise et peut-être qui peut effectivement avoir des effets par rapport à la vision que beaucoup ont entre, en tout cas, la relation financière entre la France et les pays africains.
Alors, cette relation financière, justement, puisqu'elle continue avec l'arrimage à l'euro, est-ce que ça vous pose problème?
Non, pas particulièrement. Parce que vous savez, il y a deux systèmes d'échange, le système d'échange fixe et le système d'échange flexible. Chacun a des avantages et des inconvénients. Et bien entendu, le fait d'avoir la fixité par rapport à l'euro, on dit que c'est déjà pour une période transitoire, le temps que les autres pays anglophones puissent effectivement adhérer à l'écho. Et à partir de ce moment-là, les pays vont négocier entre eux sur le meilleur régime de change, en tout cas, qui devrait prévaloir. Mais dans tous les cas, le fait d'avoir la parité fixe, à mon sens, ne devrait pas nuire à ces pays, parce que, en tout cas, l'avantage, le plus grand avantage, n'est-ce pas, de la fixité, c'est véritablement de réduire tout ce qui est risque de change, et donc cela donne des perspectives aux opérateurs économiques par rapport à la flexibilité qui a aussi son avantage.
Alors, il y avait ce qui semblait être une sorte de fronde des pays anglophones. Est-ce que nos États ont évolué sur cette question-là? Et aussi, est-ce que pour vous, c'est un gros obstacle que les pays soient divisés sur la question de l'écho?
Oui, mais je crois que tout sera le résultat de négociations, hein. Il était prévu effectivement qu'on mette en place l'écho avec l'ensemble des 15 pays de la CEDEAO. Mais pour ce faire, il était prévu qu'un certain nombre de critères puissent être effectivement réunis pour pouvoir aller vers cette monnaie unique au niveau régional. Mais bon, vous savez bien que les mois a entrepris depuis bien longtemps, n'est-ce pas, à mettre en place des critères de convergence qui font que, de mon point de vue, les pays de l'UEMOA aujourd'hui sont beaucoup plus prêts que les pays anglophones à aller dans la monnaie unique régionale.
Professeur Malik Sané, enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop et directeur du laboratoire de politique commerciale de Dakar au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Plus Plus de deux ans après le début d'une insurrection islamiste dans le nord du Mozambique, les forces de sécurité continuent de lutter pour endiguer la violence croissante. Des centaines de civils ont été tués et des milliers d'autres contraints de fuir leur foyer. Un reportage d'André Battista de la VOA, relaté par Lionel Gaïma.
L'insurrection islamiste dans la province mozambicaine de Cabo Delgado a fait plus de 1000 morts. La violence a commencé fin 2017, contraignant plus de 200 000 personnes à fuir leur domicile. Des extrémistes musulmans sont très actifs dans cette région riche en ressources naturelles. En plus des attaques contre les civils et les forces de sécurité, ils ont incendié des villages semant la terreur dans la région. Amadé Souleymane a passé 3 semaines à l'hôpital après avoir survécu à une embuscade.
Nous n'allons pas bien du tout. Ce groupe Al-Shabaab devrait être éliminé.
Un autre survivant, Martin Zaninta, a été témoin de la décapitation d'un parent par les militants.
Nous avions oublié les massacres. C'était quelque chose de l'époque coloniale. J'ai grandi sans jamais avoir vu une tête coupée, mais aujourd'hui, c'est chose normale.
Ansar al-Sunna, le mouvement responsable de ces violences, est connu localement sous le nom d'Al-Shabaab. Il est considéré comme la branche mozambicaine du groupe État islamique. Louise Lisboa, évêque de Pemba.
Ils attaquaient aldeias isoladas.
Au début, ils ont attaqué des villages isolés, puis ils ont commencé à s'en prendre aux voitures sur les grandes routes. Au début de cette année, ils ont commencé à incendier des villages déjà remplis de personnes déplacées.
Les responsables du gouvernement de Maputo blâment des terroristes étrangers pour la violence à Cabo Delgado, mais selon les dirigeants locaux, des Mozambicains constituent la plus grande partie de l'insurrection djihadiste. L'évêque de Pemba, Louise Lisboa.
Il y a certainement des gens venus de l'extérieur, mais il y a beaucoup de Mozambicains impliqués. Alors qu'est-ce que cela signifie?
L'évêque de Pemba a souligné que l'armée combat l'insurrection dans le nord du pays sans comprendre la véritable force de ses militants. Rien qu'en avril, les insurgés ont mené des attaques majeures contre 18 villages, provoquant des destructions en forçant davantage de personnes terrifiées à fuir la désolation.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Tchad, les autorités ont décidé d'alléger certaines mesures prises pour combattre la pandémie de Covid-19. L'assouplissement va de l'autorisation de la circulation des moyens de transport urbain avec un nombre limité de passagers obligatoirement masqués à la réouverture des restaurants, des coins de grillade et des marchés. De N'Djamena, le reportage d'André Kodmajingar.
2 mois après la fermeture des restaurants et lieux de grillade, ils sont maintenant autorisés à rouvrir leurs portes. Une décision qui intervient à la veille de la fête de Ramadan. Sourire aux lèvres, les bouchers se précipitent pour nettoyer les coins et recoins ainsi que les matériels de leur établissement redevenus propres et presque flambant neufs pour accueillir les clients le jour de la fête.
Je suis très content. Parce que nous, les autres, on n'a pas d'autre travail, donc avec ça, nous sommes en train de nourrir les familles et tout ça. Avec mes économies, là, tout est parti. À la fin de Ramadan, là, peut-être les gens vont gagner, là. On va récupérer un peu de l'argent.
Vraiment, vrai, content. Tout ça, là, on va laver d'abord, on va commencer le travail. Dimanche ou lundi, le Ramadan là c'est déjà fini là. Pendant le Ramadan là, les gens sont contents de manger là, c'est bon. Et le lait n'a
pas les effets là avec les saletés là, ça marche pas. À cause de ça là, on l'a bien parce que 2 mois comme ça, on n'est pas le travail là. L'installe pendant la fête là, on peut commencer le travail.
Ces restaurants et les gargotes, selon le comité de gestion de crise sanitaire, doivent fonctionner dans le respect des mesures sanitaires et donc en mode vente emportée par les clients. Mais les friands deviennent grillés, commencent déjà à saliver et préfèrent manger sur place.
Ça fait 2 mois depuis qu'ils ont fermé, je n'ai pas mangé la vie. aujourd'hui j'ai vu les sites, trop content, c'est comme ça que je suis venu pour manger là.
Maintenant on est venu, on va manger, tu as ton cadenet, tu mets en bas ici, il va manger et tu le mets en plat, tu ne mets pas ça, c'est pas normal. Non, je suis très très content, ça c'est bien quand même, merci.
Ibrahim Mahamat, un autre boucher, affirme à VOA Afrique avoir perdu gros et demande au gouvernement de penser aux plus vulnérables à l'avenir.
Vraiment, nous souffrons. Certaines personnes sont mortes de faim et non de coronavirus. Moi qui vous parle, avant les mesures barrières, j'ai fait le stock de la viande dans mon réfrigérateur pour une valeur de 3 millions de francs CFA. Aujourd'hui, tout est pourri. Alors, est-ce que c'est le gouvernement qui va rembourser mon argent? Sinon, comment je vais faire pour payer les dettes? J'ai fait 2 mois à la maison sans activité. Les gens sont pauvres et donc, prochainement, s'il y a des mesures à prendre, il faut que le gouvernement consulte la population.
Outre la levée des mesures sur la fermeture des restaurants, marchés, boutiques et magasins, les minibus et taxis jaunes sont également autorisés à circuler dans le périmètre urbain avec limitation des nombres de passagers. 4 dans les taxis jaunes et 10 dans les minibus avec port du masque obligatoire. Les citoyens ont des avis partagés.
Certaines personnes se nourrissent à base de ces petits métiers, donc c'est une bonne chose, mais les autorités doivent aussi faire le suivi. Est-ce que ces restaurants doivent préparer et faire emporter et non manger sur place pour ne pas encore propager la maladie? Et les minibus aussi, le nombre indiqué doit être aussi respecté.
Si les choses se relancent là, vraiment l'activité même là, ça serait mieux par rapport à avant. Les gens n'arrivent même pas à trouver à manger, n'arrivent même pas à sortir de chez toi.
Pour le transport là, je vois que c'est pas bien parce que les conditions ne sont pas réunies. Il y a trop de risques parce que je vois que les gars n'ont pas de gel ou soit de moyens de protection pour leurs passagers.
Par contre, les mesures fermant les mosquées et les lieux de culte sont toujours en vigueur alors que les musulmans se préparent pour la grande fête pour célébrer la fin du Ramadan. André Godouma Dingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, Ndjamena au Tchad sur 93.1 FM.
L'Eid, communément appelé Corité, est l'une des fêtes religieuses les plus importantes pour les musulmans. Au Sénégal, la fête englobe tout un business, des tailleurs aux vendeurs de produits agroalimentaires, en passant par les éleveurs de volailles. Tout ce beau monde y trouvait son compte avant que la pandémie de Covid-19 ne paralyse la quasi-totalité de leurs activités. Reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Bagueye.
Au Sénégal, Eid rime avec joli boubou, mais cette année, cette tendance n'est pas à l'ordre du jour à cause du Covid-19. Chez les couturiers, la forte affluence a laissé place au néant, comme l'affirme Abdoulaye Khouma, tailleur à Wakhina Nimzat, dans la banlieue de Dakar.
Ça ne marche pas depuis que le coronavirus est rentré dans le pays. D'ailleurs, 2 mois avant la Corité, nous n'avons plus de commandes. À plus forte raison, c'est cette période de Corité. Donc, du coup, on est là, mais on ne travaille pas. Vous avez vu, vous avez même trouvé mon atelier un peu fermé. Ça ne marche pas du tout. Comme on dit souvent, c'est des périodes de vaches maigres, vraiment. On n'a pas de commandes, on n'a pas d'argent.
Les éleveurs de volailles sont également sans ressources durant une période où ils sont d'habitude assaillis par les clients. Le poulet, servi pour le grand festin de l'Eid, est aujourd'hui très affecté par le Covid-19. Serigne Salou Sek est éleveur dans la périphérie de Dakar. Il dit vivre l'un de ses pires moments.
Bon, actuellement, les crises de la pandémie ont soulevé de véritables problèmes. Bon, les clients ne viennent plus comme ils le faisaient. Cette crise a complètement baissé les revenus que nous devons avoir, surtout à l'approche de la fête de Corité. On a baissé les prix pour que les clients puissent avoir les poulets à un prix favorable. Du coup, on peut dire qu'on a baissé les prix pour que tous les clients puissent avoir les poulets.
Dans les marchés également, les vendeurs de produits agroalimentaires vivent le même calvaire. L'engouement habituel suscité par l'Eid a été balayé par le Covid-19. Ousseynou Gaye ne voit plus l'ombre d'un client.
Le business ne marche pas. Toi-même, tu as vu, il n'y a même pas un client qui est entré ici depuis que tu es arrivé. Voilà quoi. Bon, nous, on ne peut pas sortir et dire les gens de venir acheter. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est que, bon, nous pouvons que acheter nos marchandises, elle est exposée, et attendre les clients venir. Et nous aussi, on est obligé de baisser les prix. Ça, c'est une évidence, quoi.
Dans les ateliers de couture, les poulaillers ou les marchés, le constat est le même. L'activité est au point mort. La fête de l'Eid, qui est une source de revenus conséquente, a perdu son ampleur à cause de la présence du Covid-19 et son impact économique est également en chute libre aux grandes dames des acteurs. À Dakar, Serena Bagui pour VOA Afrique.
Et voilà, c'est ici que nous allons clore le monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph, Joël Morissin, Georges Léonard Sagnot et Lionel Ganima. L'info continue sur nos ondes et en ligne sur voaafrica.com. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide au micro. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. À très bientôt. Take care. Prenez bien soin de vous. Au revoir.